I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Donkey Kong Country Tropical Freeze qui débarque sur Switch. On parle aussi de Death Road sur tout Canada qui, après une virée sur PC, débarque sur console. Ensuite, Homo Machina, la nouvelle production, enfin coproduction de Arte. Et on finira par le jeu de la semaine selon Patrick.
Voilà.
Raging Justice.
Merci.
Mais on lui laisse la responsabilité de ce
placement.
Ah oui, oui, non, on imagine bien. Et puis, beaucoup, on va aussi avoir beaucoup de news d'actu parce que l'actu a été riche ces deux dernières semaines. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, des croissants qui nous accueillent, qui nous font la gentillesse de nous accueillir. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Et Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et ben on va commencer par toi Patrick.
Oui.
Avec une belle console.
Alors,
une belle console qui... va-t-elle s'arrêter? Va-t-elle pas s'arrêter?
Ah, écoute, c'est un signal inquiétant. En tout cas, c'est Kotaku qui a sorti la news cette semaine, en fait, que Sony envisagerait l'arrêt de la production des cartouches physiques pour la PS Vita d'ici avril 2019. Donc, c'est plutôt préoccupant, évidemment, pour la pérennité du support. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du tout d'accès aux jeux, puisqu'on peut aussi acheter des jeux en démat, évidemment, sur la console. Mais c'est un cap. Ça a été a priori confirmé par Sony aux États-Unis, cet arrêt de la production de cartouches. Alors évidemment, c'est dommage parce que c'est une machine, on sait qu'elle a, je crois qu'elle est à 15 millions de ventes aujourd'hui,
c'est ça, 15 millions,
à date, ouais, environ 15 millions.
Ce qui n'est pas énorme. Hein,
c'est pas énorme.
C'est la Wii U. Hein. Et la Wii U, c'est une console de salon.
C'est
hein.
ça. Donc elle a eu une vie difficile. Elle est arrivée à un moment où justement le jeu sur tablette explosait, sur mobile. Elle s'est pris la 3DS en face qui était en pleine explosion. C'est une très belle machine, on l'aime tous, la PS Vita. On sait qu'elle a, en plus c'est un vrai, comment dire, une vraie plateforme pour tous les jeux de niche, pour les jeux indés, pour toutes les productions
mais
japonaises, les RPG notamment.
Mais du coup,
notamment.
En fait, c'est vrai qu'elle fonctionne énormément, en tout cas depuis quelques années, sur le store, sur le démat. C'est aussi ça. Enfin,
et aussi, mais c'est aussi la logique.
J'ai même pas le souvenir de ces dernières années d'avoir vu un jeu physique
Vita. Ah si, il y a encore des rayons,
des
tu vois, en magasin.
Ah,
ouais, t'as encore, t'as Core Media qui publie encore pas mal de jeux en physique en Europe. Hein, on trouve encore, il y a encore un petit rayon qui persiste, mais qui, voilà, la pérennité n'est pas du tout assurée. Et en tout cas, voilà, en tout cas, sur le physique, j'ai envie de dire, jetez-vous sur les jeux qui vous font envie. C'est peut-être le moment avant que ça disparaisse complètement des rayons. Cette machine, je pense qu'elle restera culte à terme. Ça va être une machine qui va rester, qui nous a tous marqués, qui était en termes de finition, qui était une très belle machine, qui va perdurer. Encore une fois, il y aura du démat. Sony va pas l'arrêter complètement, mais
ah
bon, en tout cas, si on aime les jeux physiques. En plus, j'aimais bien les boîtiers, moi, de la PS Vita. Enfin, voilà, c'est une machine.
Moi, j'aimais pas les cartouches. Hein. Je trouve que c'est.
Ouais, mais t'aimerais encore moins les cartes mémoire. Hein, je t'assure, parce que les cartes mémoire de la Vita, elles sont à un prix débile.
Ouais, enfin, alors, c'était propriétaire. Ouais. C'était le format.
C'était propriétaire sur la première génération de PS Vita. Je crois que sur la deuxième génération, ils sont passés au SD. Il me semble, mais alors je peux me tromper. Mais oui, c'était un des gros problèmes, d'autant que c'était propriétaire. Et que ça coûtait une blinde et
mais
que
c'est clair.
Tu pouvais rien y faire.
Donc bon bah il faut vérifier. En tout cas, n'hésitez pas, c'est des jeux qui vous font de l'œil. C'est peut-être le moment
non,
ou jamais.
La Vita, comme j'aime à dire, c'est une excellente console avec une mauvaise ludothèque, alors que la 3DS c'est une très mauvaise console avec une excellente ludothèque.
C'est
et du
pas
coup,
complètement faux.
Et qui gagne.
Là, c'est la bonne ludothèque. Non, mais ça, on n'arrête pas de le dire. Mais
c'est vrai que l'écran de la PS Vita, quand tu as une PS Vita, ça reste toujours bluffant. Surtout la première génération, je crois qu'ils avaient changé l'écran à un moment, mais la première génération de Vita, ça reste une superbe machine
elle
en termes de finition hardware
et pendant très longtemps
qualité.
Alors maintenant la Switch arrive et prend cette place
de
l'indé portable, mais c'était une des meilleures machines pour jouer à des jeux indés et franchement
pas exploité l'écran tactile arrière, le côté tactile à l'arrière de la machine, ça n'a pas été exploité.
Terraware un peu,
mais pas assez. Il y avait
certains jeux japonais dont je tairai le nom parce que c'est un peu
coincé. En tout cas voilà, c'était bon, c'est pas forcément la bonne nouvelle de ces deux dernières semaines. Une bonne nouvelle en revanche qui est tombée ce matin, c'est tout frais, après. C'est l'annonce par Microsoft d'une manette spéciale, en fait, à destination des joueurs qui ont un handicap. Donc, une manette modulable, accessible. Adaptable, accessible, en fait, avec des d'après ce que j'ai vu, hein, je ne l'ai pas vu physiquement la manette, mais j'ai vu le communiqué, avec donc des touches plus grosses, plus accessibles. Je pense que la machine est vraiment pensée pour ça. Pour
on dirait une platine de mixage.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que le look est assez surprenant. En tout cas, c'est une très belle initiative. Elle est prévue pour fin d'année. Microsoft donc annonce qu'elle sera compatible Xbox et PC. Donc une manette qui sera modulable et abordable, a priori. Donc, on verra tout ça en détail.
Mais c'est bien, ça.
C'est une belle initiative. Ce serait bien que ce soit suivi même par d'autres constructeurs.
C'est une bonne chose. Et il y a un mouvement dans les jeux indépendants, notamment de rendre certains jeux accessibles, par exemple, aux daltoniens, sur bien des sûr, jeux où les couleurs sont importantes, notamment dans les puzzle games où ça peut être un vrai problème. Et c'est vraiment
c'est vrai
une bonne chose.
La prise en main, c'est important. Et en tout cas, cette manette, c'est vraiment une belle initiative qu'on va suivre. On en reparlera peut-être lorsqu'elle arrivera physiquement. On en reparlera certainement. Et puis, une dernière mauvaise nouvelle, parce que voilà, on va pas finir sur une bonne nouvelle. c'est l'annonce de la fermeture de Boss Key Studio. Alors, Boss Key Studio, c'est le studio de Cliff Belzinski, l'ancien de Epic Games, qui a annoncé cette semaine qu'il jetait l'éponge, en fait. Hein. Donc, alors lui, il faut se rappeler.
C'est étrange après le succès retentissant de Radical Age.
Dont on avait parlé et de Lawbreakers. Mais en fait, oui, il a morflé. En fait, ces deux gros jeux, c'était Lawbreakers qui s'est pris. Il a essayé de courir après Overwatch, mais bon, bah, évidemment.
Mais alors, c'est le truc avec ce studio, ils passent leur temps à courir après les succès.
Mais ça ne marche pas. Et du coup, Lawbreakers s'est planté. Radical Heights, on en avait parlé il y a quelques semaines, ça ne marchait pas. Avec, malgré un look 80 qui pouvait avoir son intérêt pour certains autour de cette table, ça ne marchait pas.
Et de bonnes idées de gameplay malgré tout.
Et des idées surtout. Mais bon,
c'est pas suffisant.
On ne court pas après Fortnite comme ça. Avec, du coup, il arrête. Il jette l'éponge. Du coup,
entre nous, tu dis que c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est toujours une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des gens qui vont être.
Oui, parce qu'il ça, là, on parle de Belzinski parce que c'est le plus connu, mais il avait quand même un studio avec lui. Je sais pas combien ils étaient, mais la fermeture des studios, c'est toujours des gens qui restent sur le banc et c'est donc jamais très agréable.
C'est jamais cool, mais franchement,
mais ça se trouve, ils trouveront un autre studio qui sait faire des jeux.
On espère pour eux.
C'est dur. Le pire, c'est que c'est pas des mauvais jeux. C'est juste des jeux qui ont pas l'air sexy de loin et qui sont jamais innovants parce qu'ils courent après les modes.
Tendances.
Et tu traces pas ton sillon comme ça ou alors de manière compliquée. Ou alors tu t'appelles Fortnite et tu tournes un principe vraiment tellement sur sa tête que
Fortnite préexistait avant le Battle Royale.
Bien sûr,
c'est pour ça qu'ils ont gagné.
Ce qui est énervant pour ce jeu, c'est que je pense qu'il a bossé sur Fortnite.
On en reparlera l'année prochaine. Il y aura peut-être un troisième acteur ou on sait pas ce qui va se passer.
Étonnant par contre, c'est que Radical Eyes, il est pas vieux. Enfin, c'était assez rapide. Hein. Il a annoncé que le jeu restera en ligne un certain temps, mais bon, c'est fini.
À moins qu'il se fasse racheter par quelqu'un.
Il a eu son pic de connexion parce qu'il est sorti le jour où le seul jour où Fortnite était inaccessible. Tu vois, c'est vraiment.
On avait vécu ça ensemble, je crois.
En live, en direct.
Et bon, ouais, on n'est pas resté très longtemps sur Radical Eyes.
Mais je pense que pour, en tout cas, Cliff Belzinski, qui quand même sort des bons jeux de temps à autre, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, à lui, hein, je parle bien, pour qu'il il step back un petit peu de ce truc-là.
C'est ce qu'il a annoncé, hein, qu'il allait prendre un peu de recul,
qu'il arrive avec des concepts frais, peut-être un peu qui puisse révolutionner quelque chose à un moment donné et qu'on puisse avoir un bon jeu au final qui court pas après les modes, quoi.
Restons sur cette note d'espoir. On va appeler ça une note d'espoir. Corentin, plein de reports.
On sent que c'était deux semaines assez chargées en termes de news. On sent que l'E3 arrive même. Et peut-être que pas mal de jeux se sont dit, tiens, 2018 c'est chargé, hein, on va peut-être éviter de sortir trop de jeux, donc on va tout repousser à 2019, ça sera plus tranquille. Donc on a d'abord Shenmue 3.
Ceux qui n'arrivent pas.
De quoi ?
Les années tranquilles.
Ah oui,
c'est fini là.
Ça a arrêté depuis 2016 à peu près, je crois.
Il n'y a plus.
Donc on a Shenmue 3 qui est repoussé à 2019. Tiens. C'est une annonce de Deep Silver. C'est bizarre parce que d'après le trailer excellent de la Gamescom 2017, on ne se serait pas dit que le jeu n'était pas prêt, bizarrement. On rappelle Shenmue 3 qui a été annoncé,
Tu sais que le sarcasme, c'est mal.
Je suis absolument pas sarcastique. J'adore.
Une méga surprise d'ailleurs.
J'adore les animations dignes du musée Grévin. Dans des environnements incroyables.
Parlons franchement, moi je m'en fous des graphismes. Sur la chaîne mou, c'est pas ce que j'attends.
Non, mais
très franchement.
Moi franchement, c'est l'inverse.
Je
suis désolé, c'est l'inverse. À mon avis, pour retrouver en 2019 en 2019 cette ce sentiment, cette impression, parce que c'est ça qu'on recherche.
C'est un jeu Dreamcast,
cette impression qu'on a eue à l'époque, ouais, quand on a lancé Shenmue sur Dreamcast, je suis désolé, l'aspect graphique rentre en compte. On a besoin d'être.
C'était pas cette sensation que je retiens, moi. C'était la sensation d'un monde ouvert.
Je suis d'accord.
Et d'un champ du possible incroyable.
Je suis d'accord, Patrick, et je pense qu'on en parlera dans un des jeux tout à l'heure. Il y a des limites à tout.
L'autocensure, bon, c'est ça.
On rappelle, hein, Shenmue 3, c'est la suite donc de Shenmue 1 et 2 qui ont pas connu de conclusion. C'était une histoire qui s'est arrêtée un petit peu de manière abrupte à cause des mauvaises ventes du jeu. Certains disent même que la série Shenmue a coulé la Dreamcast et a forcé Sega à devenir juste éditeur de jeux.
Qui reviennent d'ailleurs cette année, hein, que je vais refaire. Moi, je vais refaire.
Oui, c'est vrai qu'ils reviennent.
Ils reviennent sur PS4 et
c'est
Xbox.
En tout cas, c'est toujours géré par son instigateur Yu Suzuki.
Ça, c'est important.
Ça sera sur PC et PS4. Voilà. On a Indivisible aussi qui est repoussé à la première moitié 2019, qui devait sortir en 2018 également. Donc Indivisible, c'est le nouveau projet de Lab Zero Games. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui qui avait fait Skullgirls, ce jeu de combat au graphisme cartoon genre années 30, un petit peu comme c'était assez cool. Enfin, moi qui aime un peu les jeux de combat, j'y joue de temps à autre. C'est vraiment sympa, mais vraiment, vraiment cool. Tu sens que c'est un jeu qui a été fait par des vrais amateurs de jeux de combat. C'est toujours prévu sur PS4, Xbox One, PC, Switch. Les mecs veulent sortir un très bon jeu. Et là, Indivisible, c'est plutôt un RPG Metroidvania. Donc en fait, on se déplace dans des environnements à la Metroidvania, mais les combats, c'est un peu comme du Valkyria Profile. Donc du tour par tour, mais un peu dynamique quand même. Donc il y a eu un crowdfunding sur Indiegogo. Le deal, c'était, on arrive à lever 1,5 million et notre éditeur 505 Games en rajoute 2. Donc c'était plutôt un deal intéressant. Et finalement, après avoir rallongé un peu le temps, il en manquait un peu de temps, mais ils ont quand même levé 2 millions. Donc ça leur fait un joli budget de 4 millions pour un jeu de ce type-là, c'est plutôt cool. Et donc là, le problème, c'est que comme le scale du jeu augmentait, le nombre d'animations à la main à faire a augmenté aussi. Et donc il leur faut un peu plus de temps pour finir tous les travaux.
Et donc prévu pour quand là ?
Ils visent première moitié 2019, donc ils ont repoussé d'un an à peu près, donc ça reste correct. Et aussi Metro Exodus qui a été repoussé au premier trimestre 2019, donc c'est THQ Nordix qui annonce ça. Ils visaient cet automne, mais je pense qu'ils ont dû voir la somme de jeux sortir.
Ouais, tout ce qui est en face. C'est pareil, c'est un jeu qu'il vaut mieux peaufiner. Enfin, Metro, il faut prendre le temps, hein, c'est un jeu d'ambiance. Et pour prenez le temps qu'il faut pour...
Et pour le coup, Metro, en plus, bénéficie d'une vraie sympathie de la part de ses fans, donc je pense qu'ils peuvent largement se permettre un petit report. Donc on rappelle, Metro, hein, c'est les adaptations des livres de Dmitri Goukovsky, si je lis bien, je vais peut-être le faire marave, hein. Goukovsky. C'est un auteur russe, hein, de SF, donc ça suit Metro 2033 et Last Light, hein, qui était d'ailleurs ressorti régulièrement, hein,
dans les montages de PS4. Et tant mieux s'ils évitent la foire d'empoigne de fin d'année qu'on aura comme toujours.
Il y a toujours des foires en ce moment, sauf peut-être en ce moment là, maintenant c'était le moment.
Il y a rien en juin. On se va voir, hein, les jeux dont on parle, hein, c'est terrible. Grosse news sinon, Big Man Interactive qui rachète Cyanide pour 20 millions d'euros.
Ah bah oui, ça c'est quand même
à Focus Home Interactive, ce qui du coup il devient techniquement le troisième éditeur français, je crois, derrière Ubisoft et Gameloft, si je ne m'abuse.
Un gros morceau, hein.
Et devant, du coup, il passe devant Focus Home. Il me semble bien. Il récupère un catalogue assez intéressant, dont Pro Cycling Manager, Styx, Blood Bowl. Donc quand même des gros jeux pour Focus. Il y a un petit imbroglio qui va se passer autour de la licence Tour de France, puisque Tour de France appartient, enfin les droits de Tour de France sont à Focus Home, mais Cyanide était le seul studio capable de gérer une simulation de cyclisme.
Sur l'histoire,
ils sont complètement dans l'incapacité de développer autre chose. Enfin, Cyanide, ils ont une telle expérience, c'est les seuls à avoir une expérience dans la simulation de cyclisme.
Mais en même temps, Cyanide essaie de son côté de récupérer les droits également, donc grosso modo, il y a deux scénarios, soit Focus Home arrive à trouver un studio qui accepte de relever le défi
rapidement,
ça va être compliqué de sortir Tour de France 2018 à mon sens, mais l'année prochaine, je sais pas quelles sont les conditions de pour garder les droits, vous n'avez pas sorti de jeu, vous n'avez plus les droits, ça peut arriver ce genre de choses.
Mais Tour de France 2018, il doit être gold là, ils ont plus le temps là.
Oui, mais Cyanide n'a pas le droit de le sortir puisque c'est Focus qui a les droits, tu comprends?
Oui, mais Focus, il doit y avoir un deal, il sort
je sais pas,
c'est quand même un partenaire historique de Focus, quoi. Enfin,
c'est le
Cyanide, ils ont toujours été là depuis les débuts. C'est un gros morceau qui part quand même.
Et surtout, ça fait écho à cette crise de gouvernance qu'on connaît chez Focus depuis quelques temps. Je ne sais plus si on en avait parlé ici.
Si, on l'avait annoncé, le départ de Lagarrigue.
Voilà, le départ de Cédric Lagarrigue en avril. A priori, c'est ultra lié. De ce que j'ai cru comprendre, c'est l'incapacité du board et de la direction de s'entendre sur sur le fait d'empêcher ce rachat,
cette acquisition départ, ouais.
qui a provoqué le départ de Cédric Lagaric, qui était, on va dire, la tête de gondole de Focus Home Interactive.
On se doutait qu'il devait y avoir un truc.
Des enjeux.
Il y a eu un accident, c'est clair, et c'est, a priori, c'est celui-là. Et enfin, dernière news, pas très important, mais c'est mon petit coup de cœur personnellement. Valhalla, je vous en parle peut-être tous les mois dans Silence on Joue, qui arrive sur PS4 et sur Switch en 2019. On avait parlé de Red String Club dans Silence on Joue. C'est Red String Club, mais en mieux.
Oui, c'est ça, bah oui, tu nous en avais parlé, effectivement.
Non, c'est pas vrai.
Ça se passe au Brésil ou un truc comme ça. Non, c'est un jeu brésilien.
Ça se passe au Japon dans le jeu, mais c'est un jeu vénézuélien.
Vénézuélien.
D'autant plus dingue quand on y pense. Enfin, fait par des Vénézuéliens. Les mecs sont peut-être sortis du marasme vénézuélien, mais le jeu était déjà sur PC, PS Vita et iOS, et c'était sorti en 2016. Moi, j'ai adoré. C'est un peu spécifique. C'est du visual novel, donc on aime ou on n'aime pas le visual novel à la japonaise en plus. Donc c'est vraiment très spécifique.
C'est clivant.
Mais franchement, dans ce genre-là, si vous êtes adepte de ce genre-là, c'est excellent. Mais c'est trop bien écrit et c'est trop cool. Voilà pour les news.
Merci à tous les deux, le Comnécom de il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, nous étions en vacances, parce que les croissants, ils ont aussi mérité leur semaine de vacances. Ah, quand même, hein, faut pas déconner non plus. On commence parce qu'on parlait de Swords of Ditto. Alan San qui dit Swords of Ditto finit 4 fois plus boss caché, wow. Et je suis déception. Les 2 ou 3 premiers runs étaient très sympas, mais ensuite on se rend compte que les mécaniques sont très mal pensées. La partie rébarbative de début de run de récupérer l'épée, les mécaniques des cristaux qui rendent le jeu très simple et surtout rend cette histoire de temps limité vraiment accessoire, le faible nombre de quêtes apportant du permanent, le concept nul mais vraiment nul de devoir prendre un level avant chaque donjon, ce qui alourdit les games par des phases de grind plutôt chiantes, le faible nombre de jouets légendaires qui donne une très faible rejouabilité au jeu, ce qui est un comble pour un roguelike. Sérieusement, qu'est-ce que ce jeu aurait été génial en transposant juste les concepts de gameplay de Rogue Legacy dans celui-ci. Et selon lui, la bonne nouvelle est que les devs ont pris conscience des problèmes vu la masse de retours. Ouais. Donc on espère quelques mises à jour. Oyoyo qui nous dit j'ai essayé Healer's Quest, j'en suis à 2 heures de jeu, c'est vraiment drôle, la parodie du RPG est vraiment réussie, il y a des dialogues de un combat sur deux qui tire un sourire quasiment à chaque fois quand ce n'est pas un bel éclat de rire, tout est prétexte pour une bonne vanne, que ce soit les graphismes, l'interface, les descriptions d'équipement, la création de personnages, etc. C'est un plaisir d'avancer dans l'histoire. En revanche, sur le gameplay en lui-même, ça tourne très vite en rond. Erwan l'a très bien expliqué, on gère 4 barres de vie, une barre de mana et des cooldowns, on regarde à peine ce qui se passe dans le combat. Cher Oyo, j'ai envie de te dire, c'est le boulot du healer. Je l'ai expliqué. C'est un jeu, le sacerdoce du healer de regarder ses barres de vie.
Et un jeu n'est pas obligatoirement obligé d'être fun si te convoie un message qui ne l'est pas. Hein. Healer, il se fait chier. Voilà, on vous propose de vivre.
Le
mimétisme vidéoludique. Ouais.
Mais bon, pour lui, c'est vraiment dommage. Et il nous dit quand il sera en solde, n'hésitez pas, ça vaut le coup d'œil. Commentaire auquel répond Nomisis. Alors Nomisis qui en a parlé dans le podcast La Pléiade, le podcast qu'on salue. Parce qu'il y a énormément d'auditeurs, enfin pas énormément, mais bon, il y a quelques auditeurs de Silence en Joue qui chroniquent là-bas.
C'est un podcast où tous les auditeurs de Silence en Joue parlent en même temps, on comprend rien.
Pas vrai.
J'ai écouté, c'est sympa.
Mais oui, c'est vraiment cool, la Pléiade. Vous pouvez retrouver ça sur SoundCloud ou dans vos dealers de podcasts habituels. Nomisis, donc, il dit bah oui. C'est des barres vertes qui se vident pour renouveler l'expérience, tente des sorts qui paraissent faibles au premier abord. Et c'est vrai que l'expérience devient un peu rébarbative au bout d'une dizaine d'heures, principalement à cause des combats aléatoires que je trouvais déjà relou dans Final Fantasy 2, donc ça ne date pas d'hier. Oui, c'est vrai que le random encounter, mis à part le premier random encounter de Healer's Quest qui est absolument formidable, c'est vrai que les autres.
Je crois que t'avais éventé la blague.
Oui, j'avais éventé la blague. Bah oui, mais c'est une des premières blagues du jeu, donc c'est pas grave. Et je voulais juste préciser une chose sur les commentaires. On m'a expliqué que j'avais fait un énorme spoil de God of War quand on en avait parlé il y a quelques semaines.
Je l'ai même pas noté.
Et donc, je m'excuse pour les gens. Bah oui, moi non plus. Hein. Donc, il a fallu qu'on me dise là où j'avais spoilé. Je vais pas le répéter du coup.
Ah si, on s'en fout. Oh, bref.
Okay. Bref. Mais bon, non, mais voilà, je voulais m'excuser officiellement pour.
Non, mais les gens deviennent quand même de plus en plus sensibles au spoil. Moi, ça me.
Moi, non, ouais. Moi, en fait, c'est parce que je suis pas, personnellement, pas hyper sensible.
Oui,
c'est relatif quoi au début du jeu.
Non, mais je te dirai ce que je pense que c'est. Parce que sinon, on va respoiler.
Voilà, c'est un bon problème si on respoil sur le spoil. Allez, il est temps de commencer cette émission après cette longue page de news, mais il y avait de quoi dire. On va commencer par Donkey Kong Tropical Freeze. Le premier Donkey Kong Country Tropical Freeze était très bien, mais il est sorti sur Wii U.
Chance.
Donc, quand on ressort une console qui fonctionne, eh bien, il faut aller chercher les jeux qui sont très bien sur la console précédente et les mettre à jour. Et c'est ce qu'a fait Nintendo avec cette nouvelle édition prévue pour Switch, qui sort sur Switch de Tropical Freeze. Tu as joué sur Twitch, hein, donc je t'ai regardé jouer aussi. J'y ai joué un petit peu. Alors, ça donne quoi, ce Tropical Freeze?
Ça donne la même chose que sur Wii U, donc un bon jeu. C'est vrai que si vous...
Voilà, je suis mort.
Merci.
Si vous ouvrez un dictionnaire à la définition « passer sous les radars », vous avez une photo de la boîte de jeu de Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Wii U, malheureusement.
Pourquoi « passer sous les radars »
Parce que qui a joué sur Wii U, mon cher Patrick? Personne, alors que c'est un excellent jeu.
Moi, j'avais joué, mais c'était pour un peu une niche de joueurs.
Disons que Donkey Kong Country n'est pas non plus la licence la plus forte de Nintendo. Elle était revenue... Alors, il faut remettre un petit peu d'historique. Donc, Donkey Kong, outre être le méchant dans les jeux d'arcade, des tout premiers jeux d'arcade de Nintendo, était revenu sur Super NES avec Rare à l'époque, qui avait fait d'excellents jeux de plateforme.
Avec
Donkey
un
Kong
panache
Country.
Inoubliable, quand même.
Exactement, à base de graphismes pré-rendus. On en reparlera tout à l'heure.
Dans quelques minutes. Avec grand plaisir.
Il y a des liens partout.
Tout est lié, ouais.
Mais du coup, oui, c'était d'excellents jeux de plateforme. Mais excellent. Mais je rejoue encore à Donkey Kong Country.
La musique.
Les musiques étaient pas mal du tout.
Les graphismes.
Voilà, Rare avait fait un excellent travail, avait laissé avec le 2 notamment, que d'habitude le consensus veut que le 2 soit le meilleur dans la première trilogie de Donkey Kong Country, mais avait laissé une trilogie de jeux de plateforme absolument mémorable, surtout à une époque où la Super NES était en concurrence directe avec la PlayStation à ce moment-là. PlayStation sortait et Nintendo arrivait à sortir un jeu qui pouvait concurrencer certains jeux PlayStation sur la Super NES. Voilà, donc c'était quand même quelque chose d'assez dingue à l'époque. Et donc Rare évidemment est passé entre les mains de Microsoft entre temps, et Nintendo a décidé de confier le retour de Donkey Kong Country sur Wii à l'époque, c'était Donkey Kong Country Returns, à un autre développeur occidental. Comme quoi, c'est tradition occidentale, c'est Nintendo qui fait confiance à des studios occidentaux, et donc les Texans de Retro Studios en l'occurrence, qui avaient fait les Metroid Prime sur GameCube à l'époque, donc pas les moitiés de nul, là. Ils sont très très bons. Ils sont capables en tout cas de prendre une formule bien connue et d'en faire quelque chose de bien.
Et déjà sur la Wii, c'était une tuerie.
C'était très bien. C'était quelque chose. Ils arrivaient à réactualiser une formule. Franchement, je trouve qu'ils n'ont pas inventé grand chose avec les Donkey Kong Country Returns.
C'est scolaire, mais c'est propre.
Exactement, c'est scolaire. Et en tout cas,
vous êtes dur quand même. Enfin, scolaire,
sur Wii, moi je parle de la version Wii.
La première. Ouais. C'était bon, mais c'était scolaire. Je suis assez d'accord avec Patrick. Il n'y avait pas de révolution, tu vois.
Non, bien sûr.
Mais à la hauteur des Donkey Kong Country d'origine qui étaient révolutionnaires.
Mais voilà. Avec Tropical Freeze, qui était arrivé donc en 2014 à l'époque, il y a eu quelque chose d'en plus. C'est-à-dire qu'on est toujours dans plutôt scolaire, hormis qu'ils ont rajouté des personnages. Donc à l'avant, on n'avait que Diddy qui pouvait nous permettre de planer un peu avec le jetpack. Ici, dans Donkey Kong Country Tropical Freeze, on a deux nouveaux personnages qu'on peut se mettre sur le dos de Donkey Kong. Donc en l'occurrence, Dixie Kong, qui permet de faire grosso modo un double saut, qui permet de nous élever un peu plus dans les airs, qui est très clairement le meilleur pouvoir du jeu. Cranky Kong, qui lui a le même pouvoir que Picsou dans DuckTales. Je ne sais pas si vous voyez. Rebondir avec son pogo stick, sa canne, sur les sticks ou les ennemis qui ont des pics, ce qui est plutôt pratique. Donc ce qui permet un petit peu plus de variété dans les gameplay, tout ça. Mais surtout, et c'est pour ça, je rentre pas dans les détails, vous voulez l'histoire de Donkey Kong? Les méchants pingouins arrivent et foutent dans le monde de Donkey Kong. Fin du game. Et il fait froid partout, il y a de la glace. Voilà.
C'est un remake de Batman Returns.
Donkey Kong ne sort pas de Bat Credit Card, malheureusement, mais c'est la même idée. Mais là où Donkey Kong Country Tropical Freeze arrive vraiment à briller, c'est par son level design. Mais vraiment, il est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que d'habitude, dans les jeux Nintendo de plateforme classique, comme les Mario par exemple, l'idée c'est qu'on ait une idée.
Une idée de gameplay par niveau.
Et que cette idée-là, on la décline jusqu'au bout et ensuite on passe à une toute autre idée de gameplay, ce qui est d'ailleurs une bonne façon de faire des niveaux. Hein. Je vais encore sortir du Mac Brown, je suis désolé, mais il a fait une très bonne analyse de Donkey Kong Country Returns, ce qui est ce YouTuber qui fait des analyses de jeux vidéo d'un point de vue du game design. Donkey Kong Country Tropical Freeze, lui, il va pas prendre qu'une idée, il va en prendre plusieurs autour d'un même thème. Ça va par exemple être le feu. Par exemple, on va être dans une savane enflammée et il va y avoir plein d'idées qui vont tourner autour de cette savane enflammée, les liens vont être en feu, les plateformes vont petit à petit se cramer, sinon qu'elles vont tomber. Bon, il y a plusieurs idées comme ça et elles s'entremêlent et ces idées-là, plutôt que de se décliner, vont se combiner entre elles jusqu'à la fin, donner vraiment beaucoup de variété et des niveaux beaucoup plus longs que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres niveaux. Ce qui donne un gameplay absolument dingue, enfin un level design absolument dingue, mais aussi une des mises en scène absolument géniales. Je crois que c'est vraiment la plus grande force de Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est les mises en scène. Même dans les niveaux qui pourraient paraître classiques, comme les niveaux en petit chariot de la mine où on doit sauter sur les trous, il y a des scènes mémorables, comme dans la Syrie, je sais pas si vous voyez, pas le pays, hein, là où on fait, là où on scie du bois, où on est là, et en fait, il y a des scies circulaires qu'on doit éviter, et à un moment donné, on est poursuivi par une énorme scie circulaire, et il y a plus de chemin devant nous, mais la scie circulaire vous envoie des morceaux de bois qui créent le chemin en direct. C'est hallucinant.
Dans mon souvenir, parce que moi, j'ai pas rejoué depuis un petit moment, depuis la version Wii U. Il me semble que le gameplay était beaucoup plus précis que celui sur Wii, qui était un peu flottant dans mon souvenir. Je crois que sur Wii U, ils avaient rajouté, enfin, ils avaient vraiment recentré le gameplay sur quelque chose de plus sec et de plus précis.
Il y a une raison.
Ça n'a pas bougé, ça, du coup.
Il y a une raison très simple. C'est parce que sur Wii, en fait, il y avait toute une partie du gameplay qui était avec le motion control.
Je me rappelle que c'était flottant.
Ce qui a été corrigé, d'ailleurs, plus tard dans la version 3DS de Donkey Kong Country Returns.
Oui, c'est sorti en 3DS.
Il est sorti 2011, 2012, je ne sais plus.
Un peu après, ouais.
Et du coup, on sentait déjà que c'était un peu plus fin. En fait, c'est juste lié au motion control qui
là,
a un temps d'attente.
Donc là, tout ça, c'est oublié. On n'est pas sur...
Donkey Kong Country n'est pas céleste. C'est-à-dire que voilà, il y a une depuis Super Meat Boy, il y a une autre, on va dire, philosophie de jeu de plateforme qui est sortie et qui est cette philosophie de l'ultra difficulté sur des séquences ultra courtes avec du gameplay ultra souple. Et c'est-à-dire que dans Céleste, par exemple, il n'y a pas d'inertie. Du tout, il n'y a pas d'inertie du tout pour les personnages. Ouais. C'est un côté extrêmement jouissif, ce qui permet de donner du challenge beaucoup plus dur.
Et laisser un contrôle ultra précis.
Et en plus, voilà, si vous mourrez, vous recommencez immédiatement. Donkey Kong Country, c'est old school, c'est avant cette vague-là. On est sur des jeux où Donkey Kong, vous mettez un coup de stick, il met un petit moment avant de démarrer, il a une vitesse qu'il doit prendre, une vitesse de pointe qu'il va récupérer, et quand vous allez vouloir l'arrêter, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu avant qu'il s'arrête complètement. Pareil pour les sauts, il y a un temps de démarrage du saut. C'est pas mauvais, mais c'est tout un apprentissage à prendre. Et bon, après, le jeu est pas idiot, il vous donne des niveaux très difficiles au début. Mais n'oubliez pas que c'est un jeu old school de plateforme. Et aussi, comment dire, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça pour dire que c'est un jeu à l'ancienne avec une difficulté difficile.
On en avait parlé à l'époque où il était sorti sur Wii U.
Sur Wii U, je rachète ou pas?
Non,
ok.
Vraiment pas besoin. Alors, ils ont rajouté quand même un mode facile.
Voilà, il faut parler de celui-là parce qu'en fait, c'est vrai qu'une des particularités de Tropical Freeze quand il est sorti sur Wii U, c'est que c'est pas non plus un jeu hyper accessible. On n'est pas sur Yoshi Woolly World. Donc, pour une clientèle enfantine, notamment.
Malgré les atouts cartoon du jeu, il est faussement. Venez jouer avec moi. Non,
il est retort. Là, ils ont rajouté le Funky Mode.
Le Funky Mode, c'est 5 points de vie au lieu de 3.
C'est bien pour justement élargir aussi.
Tout à fait.
C'est un personnage qui est capable d'emmener 5 objets au lieu de 3.
Ah, c'est cool. C'est une bonne idée, je trouve.
C'est des objets du style si vous tombez une fois dans un trou, on vous récupère. On vous rajoute un point de vie en plus.
T'as pas les mêmes rewards. J'imagine que tu débloques pas les mêmes choses avec lui, non?
C'est pas frustrant. Enfin, une personne qui va vouloir faire le jeu en Funky Mode.
Toi, tu joues pas avec lui, quoi.
Mais ceux qui vont vouloir jouer avec le Funky Mode, en fait, vont pas chercher à le finir à 100% ou à 200% parce qu'on peut peut le finir à 200% le jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va noter quand même le plus important, il a un double saut. Il plane dans les airs si vous maintenez le bouton de pour planer. Il respire sous l'eau. Il peut faire la roulade infinie. C'est-à-dire que normalement, il faut avoir son coéquipier sur le dos pour pouvoir faire la roulade infinie. Là, il le fait de base. S'il marche sur la plupart des pics, il meurt pas. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs.
C'est pas mal. Enfin,
je trouve que c'est un mode facile, intelligent, parce qu'il vous met, au lieu de dire, tiens, on va vous retirer des éléments, il dit, on va vous en ajouter.
Et puis c'est bien d'identifier qu'un personnage. Enfin voilà, il n'y a pas de doute.
Et c'est pas grave du tout. Et comme en fait, on vous donne plus d'options, en fait, vous êtes plus armé. Et pas, on vous met un défi moins difficile. Ouais. Et du coup, c'est vraiment sympa pour les gens qui ont... Enfin, on vous prend pas de haut avec ce mode-là. C'est pas un mode où on vous donne le niveau comme on peut avoir. D'ailleurs, Nintendo a très mal fait les modes faciles. Genre, oui, passez le niveau, y a pas de problème. Non, ouais. Là, c'est, vous allez passer le niveau avec beaucoup plus d'outils pour vous préparer à le faire. Et finalement, c'est ce que Céleste avait fait aussi, en mode, choisissez le paramètre que vous voulez améliorer ou changer pour réussir ce mode-là. Avec le mode Funky Kong, vous allez quand même mériter votre niveau. Vous allez le terminer, certes,
plus tard,
avec beaucoup plus d'outils.
Et
à tout moment, vous pouvez repasser sur Donkey Kong, ce qui permet aussi de se dire, bon, là, vas-y, j'ai envie de jouer normalement. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir mis ce mode-là. En tout cas, si vous voulez jouer avec des enfants, c'est mieux d'avoir un Funky Kong, très clairement.
Donc, Donkey Kong Tropical Freeze, sorti sur Switch. Et puis là, comme chacun sait, les zombies sont arrivés.
Toutes les semaines, en général, mais
comme chacun sait, il y a un lieu qui échappe aux zombies, c'est bien sur le Canada. Mais pour aller au Canada, il faut prendre la route de la mort.
C'est dangereux.
Death Road to Canada. Death Road to Canada, sorti il y a déjà quelques temps sur PC, qui a semble-t-il peut-être évolué depuis sa première sortie,
mise à jour, je crois.
Et qui débarque sur console. On est sur du pixel.
Ouais, du pixel art à l'ancienne, pur et dur. Alors, comment il se présente? Est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de Milborn envahi par des zombies, peut-être?
Milborn roguelike, zombiesque. En voiture.
Alors, il est bien intéressant ce jeu. Hein. Vraiment, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ce jeu. En fait, il nous embarque dans une épopée de survie. En fait, on commence par créer son petit personnage. On peut créer un petit personnage physiquement, etc. Ouais. Et puis, comme tu disais, on est dans les États-Unis envahis par la menace zombie. Je crois qu'on commence en Floride, si je dis pas de bêtises. Et puis, l'idée, c'est de partir en voiture, idéalement, et de rallier le Canada qui, visiblement, lui, a échappé à l'invasion.
Comme chacun sait.
C'est évident, l'invasion de zombies. Alors, il est vraiment intéressant ce jeu parce que tout en pixel art, il se présente en fait en deux phases. Il est construit autour de deux grandes phases. L'une qui se présente un petit peu comme du QCM, un peu comme du jeu d'aventure à l'ancienne, un peu genre livre dont vous êtes le héros. Quand on est sur la route en voiture, on va avoir des phases où on va prendre des décisions. C'est pour ça que je parlais un peu de Milborn, parce qu'on va avoir des événements aléatoires qui vont nous tomber dessus. Il faut prendre des décisions. On avance en voiture. Je sais pas moi, un accident qui survient, la route est bloquée. Est-ce que vous vous arrêtez? Vous voyez un personnage sur la route qui attend de l'aide. Est-ce que vous allez le ramasser ou pas? Vous allez dormir ou pas dans un campement qui est peut-être un peu louche d'apparence? Est-ce qu'on tente le coup quand même? Parce que si on s'arrête pas, on va pas être en forme le lendemain si on conduit toute la nuit. Il faut gérer son carburant, sa nourriture. Et puis on va constituer un groupe de personnages, on commence tout
les
seul,
survivants.
Et puis très vite, on va rencontrer d'autres personnages sur la route ou au fil de l'aventure.
Ça devient un peu Mad Max Fury Road au fur et à mesure. Ah
bah, complètement, ça part vraiment en vrille. Donc il y a cette partie jeu de rôle, vraiment avec des décisions souvent binaires, on a deux choix ou quatre choix selon ce qui se présente. Et puis, à côté de ça, on va avoir des phases d'action lorsqu'on descend de la voiture selon les tours. Ça se joue par tour. Et là, on va avoir des séquences en temps réel d'action, d'exploration de donjons en mode rogue, où là, on part comme ça, ou seul, ou avec, idéalement, avec plutôt son équipe. On peut monter jusqu'à 4 dans l'équipe de survivants. Et on part à l'aventure, chercher des provisions, sauver quelqu'un qui nous a appelé à l'aide, ou aller explorer une contrée, ou rencontrer des personnes qui font du troc, du commerce. Parce qu'il y a cette civilisation qui est en train de tombée complètement en ruine, mais avec, mais là on retrouve vraiment tous les, bah, tous les clichés des Walking Dead et de tout, toute cette, tout ce cinéma ou ces séries télé qui se sont inspirées de ces, ces univers de zombies, avec justement l'ennemi principal, souvent c'est l'humain, c'est pas forcément le zombie qui finalement finit par faire partie du décor. Et tout ça, c'est vraiment très bien rendu dans ce jeu. Moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà qu'il arrive complètement à fusionner ces deux parties. Ces parties de questions à choix multiples sur la route, avec on prend une décision qui est toujours très importante, qui va avoir des répercussions immédiates sur ce qui va sur la tenue, sur la santé de notre notre équipe. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est vraiment avec une présentation à l'ancienne, avec comme dans un jeu de rôle en fait, on va comme dans un tour, on va tel personnage a perdu tel point de vie ou tel point de morale ou ne s'entend plus très bien avec les autres. Il y a tout ça qui doit être pris en compte aussi. C'est la mentalité des personnages qu'on va recruter lorsqu'on va les rencontrer.
Ouais, pour éviter que ça crée des bagarres.
C'est ça, en fait. Il y a toute cette partie. Il y a le management des ressources physiques et humaines et la voiture aussi. On peut changer de voiture si elle tombe en panne, etc. Mais il y a aussi la façon dont les personnages vont intervenir entre eux, interagir. Ça, c'est très, très bien géré. Donc ça, c'est le côté aventure qui est très bien mené. Et puis, entre deux, on a de l'action quand on rentre, on explore une ville, un quartier, une maison. Et là, il y a vraiment une tension. Et je trouve que là, on retrouve vraiment la tension des films de zombies où en général, on est à peu près sûr de soi lorsqu'on va débarquer dans une ville, on va rentrer dans les bâtiments, explorer, trouver des choses. Et très vite, il y a ce phénomène de masse qui est vraiment relatif à l'imagerie du film de zombies, où on va vite être submergé par des dizaines, des centaines de zombies à l'écran qui nous tombent dessus. Et là, il faut vraiment gérer l'immédiateté. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à s'enfuir si on commence à voir que le nombre de zombies devient vraiment menaçant.
C'est assez rigolo, c'est que comme dans tout bon film de zombies, entre guillemets, dès que les zombies sont séparés de 4 ou 5 mètres entre eux, c'est pas des problèmes. C'est-à-dire qu'on va pas aller les taper, on va passer entre parce que les zombies sont lents. En fait, le problème, c'est qu'on se fait voir, on se fait repérer, et puis les zombies nous suivent. Ils nous suivent dans les bâtiments, ils nous suivent d'une pièce à l'autre.
C'est important ce que tu disais.
Ils créent une foule.
Ils nous suivent d'une pièce à l'autre.
C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui créons se promenant entre les zombies. C'est nous-mêmes qui créons la foule de zombies.
On fait du bruit, on les attire. Et le fait qu'il. En fait, il y a un côté Binding of Isaac dans ces séquences d'action.
Sauf qu'on a des armes relativement limitées quand même.
Qui se cassent, les armes s'abîment, les munitions sont quand même hyper limitées. On peut se faire braquer lorsqu'on reprend la voiture. Ouais. En fait, c'est tout bête, mais il y a la gestion de la sortie de voiture. C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit qu'on veut explorer. Il faut sortir de la voiture, on part à l'aventure. Et très vite, il faut se replier. Donc il faut aussi gérer le retour à la voiture, retrouver sa voiture dans un environnement qui devient très vite étouffant. Et ça, c'est vraiment bien joué. Alors il y a tout un apparat, comme on disait, pixel art, la musique est somptueuse.
Elle est très bien, la musique est
vraiment fabuleuse. Et puis il y a plein de petites trouvailles. Moi, je trouve que dans ce côté, je trouve que les deux phases sont radicalement différentes en termes de gameplay. L'un, on est vraiment actif, pas dans main et on bastonne. On est vraiment en mode survie. L'autre, on est sur de la décision, sur du côté RPG. Et là, j'aime bien, il y a des petites trouvailles, des petites images digitalisées qui vont nous expliquer ce qui se passe, trouver un camp, trouver une voiture, qu'est-ce qu'on fait, ou rencontrer quelqu'un. Et ça crée, moi, ce que je trouve vraiment fort, et c'est là où je trouve que le pixel art est réussi graphiquement, mais aussi convoque tout un imaginaire, c'est-à-dire qu'on se fait vraiment une histoire. On s'attache. Ce qui est fou, c'est la capacité du jeu. Une partie peut durer assez longtemps si on se défend bien. En général, les parties sont courtes au début. On apprend de ses erreurs et on peut avoir des parties un peu plus longues au fil du temps. Et on s'attache à ces personnages. Et c'est terrifiant, c'est qu'on commence la partie avec un personnage, deux. On s'y attache et on les perd des fois au bout d'une demi-heure de jeu. Et c'est terrible parce qu'on en voit un qui meurt lors d'une sortie, ça se passe mal. Et ce qui est fou, c'est la capacité du jeu vraiment à... On écrit une histoire et avec des personnages qui disparaissent. Il y a des séquences vraiment déchirantes. On rencontre des personnages complètement barrés, on rencontre parfois des animaux. Enfin, moi, j'ai eu une séquence, mais folle, où je rencontre un chien qui se tient debout avec un impair. C'est bizarre, il s'intègre à l'équipe. Et au cours d'une mission, je me rends compte qu'en fait, c'était deux chiens l'un sur l'autre qui étaient déguisés. c'est fou.
C'est trop chou.
Non, mais vraiment, en tout cas, vraiment, il arrive vraiment à créer un univers et à nous faire raconter des histoires. On s'attache. En fait, on se crée tout un monde avec ces images lorsqu'on
est dans la section. Ça a l'air un peu foutraque, non, niveau humour. l'humour. Il y a un peu d'humour.
Ouais, c'est assez barré. Ouais. Ah, c'est okay. assez barré. Et puis moi, j'aime bien les petites répliques, les interactions entre les personnages. Et puis tout ça, moi, ce que j'adore, c'est le côté le contrasté entre l'imagerie un peu 80s, marrante, ouais. la musique pop, un peu sucrée, qui est vraiment un régal pour l'oreille. Et les événements horribles qui se passent dans l'histoire, parce qu'on perd des personnages. Il y a des moments vraiment déchirants. Il y a des choix qu'on doit faire qui sont terribles, parce qu'on doit des fois débarquer un personnage pour en prendre un autre, ou on doit faire des choix vraiment terribles. Tout ça sur une musique guillerette, un côté très chiptune, très 80s, mais enfin. Ça marche, vraiment, et ça marche. Moi, j'en garde des souvenirs, j'ai des souvenirs de parties complètement fous. Et vraiment, moi, grand coup de cœur, je trouve qu'il arrive vraiment à recréer cette tension qu'on a dans les films de zombies réussis, ou à la grande époque de The Walking Dead, lorsque ça marchait encore bien.
Et la performance, c'est un roguelike, donc c'est génératif.
Ouais.
Tous les personnages sont générés aléatoirement.
On peut les créer.
Enfin, on peut les créer,
Il y a aussi une génération et complètement aléatoire, et qui marche bien, qui est cohérente.
Et le design est plutôt très réussi, même vraiment, simpliste, mais réussi.
Alors c'est tout en anglais, je crois, il n'y a pas de traduction française, à savoir, bon, il faut un petit peu maîtriser l'anglais quand même, lorsqu'on a des choix à faire, il faut bien maîtriser, mais franchement à faire, c'est pas vendu très très cher, je suis plus dans les 15 euros si j'ai pas de bêtises.
Death Road to Canada qui vient de débarquer sur console.
On recommande chaudement.
Alors, saviez-vous que le médecin Fritz Kahn... non mais on a déjà vu ses œuvres en fait, donc fin du 19e, début du 20e, en fait c'est donc un médecin vulgarisateur scientifique qui avait représenté le corps humain comme une gigantesque usine avec chaque organe qui avait ses fonctions, ses petits ouvriers et tout ça. Concept adapté en jeu vidéo par Darjeeling, le studio Darjeeling qui avait déjà fait Californium notamment avec Arte, et ça donne Homo Machina. Sans pas particulièrement de tension, ni de suspense, ni de... Voilà, il n'y a pas de zombies. Homo Machina, voilà. Ouais, c'est une imagerie sans pouvoir en donner les origines, etc., auquel on avait déjà été confronté. Cette vue en 2D corps humain.
Ça m'étonnerait pas que si vous tapez donc Fritz Kahn sur Google Images, que vous voyez ses travaux et que vous vous dites « Ah mais oui, mais j'ai déjà vu ça, évidemment, bien sûr. » Mais comme tu le dis, oui, donc Fritz Kahn qui était ce génie écologue allemand qui s'est amusé à représenter le corps humain comme en fait une usine, donc avec des tuyaux, des valves, des manettes, des tapis roulants, des ventilateurs, des soufflets, exactement. Ouais. Et donc c'est assez rigolo à voir, parce qu'évidemment l'analogie est plutôt rigolote, d'imaginer le corps humain comme une espèce de robot finalement. Et c'est ce que propose donc Darjeeling, qui est un studio parisien, donc qui a l'habitude de collaborer avec Arte. Donc évidemment, on est dans du jeu vidéo à but soit artistico, éducativo, ce que vous voulez. Mais Californium, j'avais pas trop essayé, mais je sais pas si c'était bon. En tout cas, Homo Machina, donc petite expérience sur Android et iOS qui est déjà sortie au moment où vous écouterez cette émission. Et on va dire que c'est dans le même format que ce qu'on avait eu avec Celeste un petit peu au niveau du gameplay, c'est-à-dire que... On a des mini-jeux, en fait.
Avec Céleste ? Florence,
merci. C'est aussi un nom féminin. avec Florence, oui, évidemment. Donc, des mini-jeux, en fait, que vous devez faire. On ne vous explique pas nécessairement ce qu'il faut faire. Vous êtes face à une situation. Donc, par exemple, le cerveau va vous dire « Oh là là, vite, c'est l'heure de se réveiller. Dites aux yeux d'ouvrir les paupières. » Donc, c'est parti. Je ne sais pas si c'est l'hémisphère droit qui appelle « Oui, bonjour, j'aimerais les yeux. »« Oui, c'est l'atelier des yeux, bonjour. Oh là là, c'est le matin. »
Il y a un peu un petit côté, il était une fois la vie, non ?
Complètement. Avec un petit côté, voilà.
Alors, sans l'aspect, sans vraiment l'aspect pédago d'y était une fois la vie, parce qu'on est, sur de.
On n'apprend pas grand chose.
On est sur une interprétation du corps humain. C'est-à-dire qu'on apprend, comme tu le dis, on n'apprend pas grand chose du fonctionnement. Non, pas du tout.
C'est plutôt un moyen. Et si le corps humain était une usine ? C'est plutôt ça, en fait, l'idée. Mais voilà, donc l'émissaire droit appelle. Bonjour, c'est les yeux, je suis fatigué. Oh, les paupières, elles sont très très lourdes à soulever. aujourd'hui. Donc t'es à l'atelier, fait bon, bah il faut se mettre au travail. Et donc on a une espèce de vue de coupe, hein, toujours du corps humain. Tout est vu en vue de coupe, hein, comme si le corps humain était tranché et qu'on voyait un petit peu l'intérieur d'un bâtiment qui serait le corps humain. Et on voit ces petits personnages qui s'affairent, dont la moitié dorment ou font la sieste, c'est à vous de travailler de toute façon. Qui est donc, vous avez des interrupteurs, des valves. On vous dit pas à quoi ça sert. Le but en fait, c'est de trifouiller un peu tout. Mmh. On peut pas perdre dans ce jeu. Il y a pas d'erreur possible. Enfin, s'il y a des erreurs, mais elles n'ont jamais de conséquences. Et vous devez comprendre comment mettre en route le corps humain. Donc, par exemple, pour les yeux, ça va être ah bah il faut tirer la petite manette pour ouvrir la paupière. Puis ensuite, il faudra faire le point avec comme il y a un appareil photo en fait dans l'œil. Il faut faire le point pour bien visualiser ce qu'on est en train de voir.
Il faut mettre la pellicule aussi après.
Il faut mettre la pellicule
pour que ce qu'on voit s'imprime.
Exactement. D'accord. Et puis parfois, on va arriver dans des moments, dans d'autres endroits où il va y avoir des mini-jeux qui vont succéder. Donc reprenons l'idée de la pellicule. La pellicule, on va finir par la suivre un petit peu plus loin dans le cerveau pour que on prenne conscience de l'image, et on va même devoir un petit peu tourner la bobine, la passer dans du liquide pour révéler, dans du révélateur photographique, tout ça. Ensuite, il va falloir faire tourner la bobine pour voir l'image bouger et comprendre ce qu'on voit. C'est assez rigolo en vrai, parce qu'on dit ah, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Et donc en fait, d'un point de vue gameplay, tout le principe, c'est on vous donne un mécanisme un peu compliqué au premier abord, et le but, ça va être de comprendre qu'est-ce que fait quoi et comment mettre en place les fonctionnalités basiques du corps humain, sachant que toute l'histoire, qui n'est pas très, c'est pas une histoire compliquée, c'est une journée chez une personne qui va, oh là là, spoiler, on va encore nous critiquer, mais grosso modo va tenter de séduire une dame. Voilà, c'est un monsieur, il va tenter de séduire une dame au cours de l'aventure.
Il se réveille et décide.
On commence par des actions que tout le monde fait, manger le petit-déj, courir parce qu'on est en retard à son rendez-vous, des trucs comme ça, tu vois. Et à la fin, on va essayer de. Il y a une longue phase sur essayer de réussir un rendez-vous galant avec une dame, avec un passage très drôle dans les cordes vocales où on doit taper des phrases qu'on doit dire et les phrases n'ont aucun sens. Enfin, c'est très très rigolo. Donc voilà, plein de mini-jeux en fait, et le principe du gameplay, et on va voir qu'il y a des bons points et de mauvais points à ce niveau-là, c'est toucher tous les mécanismes pour essayer de comprendre comment ça marche et mettre en place ces fonctionnalités basiques du corps humain.
Alors, c'est une force du jeu, tout comme étant, c'est aussi son handicap, c'est qu'on se retrouve parfois avec des images, avec des choses qui bougent et on ne sait pas. On n'a aucune idée d'où appuyer, où appuyer, qu'est-ce que je fais quand j'appuie à un endroit.
C'est peut-être voulu, non ? C'est pas le but ?
Certainement voulu. Alors moi, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai eu une expérience où j'ai quand même passé un moment à quasiment insulter les développeurs pour dire non mais tu peux pas.
Leurs oreilles qui ont
arrête de me laisser dans cette situation, c'est ridicule. Et au moment où j'ai débloqué en fait la situation, je me suis dit oui d'accord. Donc c'était dans les tympans. Hein. Je ne parle pas du mécanisme en lui-même, mais il y avait quelque chose de frustrant parce que on savait quoi bouger. Il y avait trois endroits, pas à ce niveau-là, mais
tout est jouable techniquement, c'est du point and click dans l'idée.
On ne savait pas en fait quand on bougeait, je ne voyais pas ce que ça faisait et donc c'était très frustrant. Une autre occasion aussi, je me suis un peu fâché avec le jeu parce que il y a des moments où on doit actionner des organes avec plein de petits boutons sont autour d'un dessin de corps humain et j'ai trouvé le truc assez peu réactif. Enfin, il y avait un problème de réaction alors qu'on avait un chronomètre pour activer les organes. Ouais. Et en fait, comment dire, il y a certains moments, enfin je pense qu'il s'agit de micro-réglages, mais vous savez ces micro-réglages qui font aussi parfois la différence entre un jeu intéressant et un jeu vraiment bon. Ouais. C'est souvent une histoire de micro-réglages, c'est souvent une histoire d'alchimie qui passe ou qui passe pas. Des fois on échoue ou on n'arrive pas sans mais on a l'impression que c'est pas de notre faute.
Bien sûr, mais ça c'est souvent les mauvaises frustrations.
Et voilà, c'est de la mauvaise frustration, c'est que on reporte la faute de pas y arriver au jeu. Mmh. Alors que je trouve que les bons jeux ont ce talent pour dire non, si tu y arrives pas, ils nous disent très clairement si tu y arrives pas, c'est toi.
J'ai eu ce sentiment aussi, en tout cas, peut-être de tweak qui manquait sur certains trucs ou de petites choses.
C'est pas
qu'ils
forcément
ont pas
l'histoire
pensé.
De nous aider. C'est l'histoire, quand moi j'avais ces petits boutons dans le tympan, c'est histoire de me faire comprendre par un moyen ou un autre, j'en sais rien, je ne suis pas développeur de jeu, par un moyen ou un autre que, ok, tu galères, mais c'est ton problème. C'est, le jeu doit nous dire ça. Il doit dire, tu galères, mais c'est pas de ma faute.
En fait, pour moi, il y a deux problèmes pour l'instant, dont un qui est pas grave du tout, parce que ça sera certainement corrigé très rapidement. Le premier, c'est comme tu l'as dit, c'est un manque de réactivité du jeu. Le jeu a plusieurs petits problèmes techniques. Tu parlais, on en discutait à antenne de la notion de, on a du dialogue, puis on appuie, puis ça passe deux dialogues parce qu'il y a un temps de latence.
C'est un petit détail,
mais ça énerve.
Mais en fait, c'est des bulles, les dialogues sont des bulles de bande dessinée, et c'est vrai qu'il y a des fois, le délai est assez aléatoire, ça va être des fois une demi-seconde, des fois deux secondes, donc des fois tu as lu la bulle et tu as envie d'appuyer pour passer à la bulle suivante.
Sauf que la bulle suivante se lance avant, voilà. Du coup tu passes la bulle d'après.
Et tu perds des choses comme ça. C'est des petits détails, mais
qui peuvent énerver. Bon, vu les enjeux des dialogues, c'est pas très grave, c'est genre, oh je n'ai pas bu mon café aujourd'hui, oh là là Micheline, vous êtes vraiment têtu, oh là là. C'est vraiment, c'est rigolo, c'est des scénettes en fait, c'est pas très grave si on rate un bout de dialogue. Moi par exemple j'ai eu un autre problème de cet acabit, c'est que pendant les cinématiques ou les phases de dialogue, moi que je laissais passer parce que j'en avais marre de rater des lignes de dialogue, donc j'attendais que ça se passe, j'avais carrément mon téléphone qui se mettait en veille quoi.
Ah,
c'est un peu embêtant quoi. C'est le genre de détail qui fait que tu fais bon jeu, t'es chiant quoi. Alors du coup je devais choisir stratégiquement le moment où j'allais passer un bout de dialogue pour éviter que mon téléphone se mette en veille, tu vois.
C'est des petits détails, mais oui,
c'est
des
détails
qui
sont embêtants, c'est pas très propre. Bon, mais ça encore une fois c'est très léger et ça sera corrigé je pense à la première mise à jour, au premier retour playtest finalement grandeur nature des joueurs. Alors moi le deuxième problème, gros problème, parce que pour moi en fait Homo Machina, si je devais le résumer en une phrase, c'est Shechel mais pour les 5 ans plus tard quoi. Je veux dire, Shechel c'est pour les vraiment gamins.
Là il y a trop de différence, je suis désolé. Shechel il est parfait au niveau gameplay.
Fondamentalement, si tu réduis le gameplay des deux jeux, c'est la même chose. Si tu réduis.
Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Sauf que ces petits détails de retour du jeu et de réglage, ils sont parfaits.
Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce qui manque, et ce que Amanita Design a compris, mais depuis Machinarium, voire avant, c'est que tu laisses pas le joueur dans la panade s'il est dans la panade, parce que s'il a aucun moyen de comprendre, il va lâcher le jeu, il va pas essayer de courir après tes solutions. Et donc, que ça soit dans Shechel, que ça soit dans Machinarium, il y avait toujours des moyens de trouver la solution par des moyens détournés, ce qui ne crée pas de frustration. Et c'est ce qui manque peut-être dans Homo Machina, peut-être qu'il aurait fallu, au bout d'un certain temps, qu'un personnage sorte une bulle. Ah, vous devriez peut-être essayer ça, avec des indices qui deviennent de plus en plus précis au fil du temps, qui permettent de débloquer les situations.
Moi, c'était même pas. Moi, j'ai trouvé intéressant, par exemple, quand j'ai débloqué les tympans, la phrase est étrange.
Ouais, oui, donc, bref. Qu'est-ce que tu t'es fait
quand tu as passé l'épreuve des tympans?
Ouais, quand j'ai passé l'épreuve des tympans, je me suis dit, non, elle est intéressante. J'avais pas besoin d'indices. J'avais besoin qu'on me dise. Que tu galères, mais c'est ton problème. Enfin,
oui,
j'avais besoin qu'on me dise que le jeu était au courant que je galère. Enfin, c'est bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais...
C'est pas des indices à proprement parler, mais c'est du retour. En fait.
Exactement.
Il manque du retour. Voilà, mais le retour, c'est des indices en vrai. Enfin, c'est des indices.
Quand on dit que le jeu est pas planté, mais qu'il attend de toi.
Exactement.
Je pense savoir exactement. C'est là où t'as les valves à tourner. Ouais, bon, c'est là. Moi aussi, j'ai galéré un petit peu à ce moment-là. J'allais commencer à être fâché avec le jeu. Et en fait, il faut vraiment observer tous les détails. Oui. Le jeu vous donne du retour, mais il n'est pas évident. Et c'est vrai que le jeu mériterait un peu plus d'être un peu plus obvious par moment, parce que à côté de ça, il n'y a rien qui va vous aider. Donc si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas.
Parce que visuellement, ça a l'air d'être très fouillé. Enfin, ça a l'air d'être très joli.
En fait, le jeu vraiment vous demande, faites attention aux détails, parce que si vous voyez un machin bouger quand vous appuyez sur ce bouton-là, c'est qu'il va falloir comprendre à quel moment dans le processus du corps humain il va falloir faire rentrer cet élément-là. Et du coup, dans l'épreuve que parle Erwan, c'est subtil. C'est vraiment subtil. Il y a un truc assez évident, en fait, qui, une fois qu'on le sait, on fait « mais c'est ça que ça veut dire ». Et en fait, après, si tu comprends, et ça roule tout seul. Avant ça, ça manque peut-être de retours plus explicites, ça manque peut-être d'un système d'indice, ça manque d'un truc comme ça.
C'est quand même un jeu qui est censé quand même s'adresser à un large public, j'imagine. C'est pas un jeu gamer.
C'est un jeu Arte.
C'est quand même censé s'adresser à des gens qui sont pas forcément des joueurs.
Alors, c'est pas pour les tout petits. Moi, je vise, je dirais, les pré-ados, quoi. Ça vise les pré-ados, ou alors les
à
gens
partir qui... des pré-ados.
À partir
moi,
des pré-ados.
Moi, je trouve le jeu est très beau.
Les musiques sont chouettes.
Les musiques sont chouettes, comme on l'a entendu. Si j'avais une dernière critique à faire, c'est que je le trouve. Comment dire? Tristement stéréotypé sur des détails. Alors c'est bête, c'est idiot. Je sais que ça va sembler idiot et un peu entre guillemets social justice warrior ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais
c'est les années 20, hein, oubliez pas.
Non, mais c'est les années 20, mais c'est un jeu de 2018.
Oui, mais ça se passe dans les années 20.
Ouais, mais je veux dire, bon, on commence en jouant un mec qui va avoir un rendez-vous avec une nana en fin de journée. Il va falloir, il va falloir gérer du stéréotype, un peu du cliché à droite à gauche sur le mec qui arrive pas, qui machin, qui enfin.
Alors j'ai réfléchi.
T'as réfléchi à ce sujet, ça m'intéresse.
J'ai réfléchi à ce sujet, c'est là, et je pense qu'on peut par exemple lire dans, alors à la tête du cerveau, on a deux principaux personnages. On a le directeur et son assistante. Mais en fait, le directeur ne sert à rien, il est nul, et l'assistante, en fait, c'est elle qui gère tout, ouais. C'est elle dans l'ombre qui tire les ficelles. Et en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai réfléchi à ça, je fais peut-être c'est une analogie du cerveau droit et du cerveau gauche, entre guillemets, qui est un peu bullshit, on sait, mais qui pourrait être une espèce d'analogie. Et finalement, bah, le cerveau arty, c'est plutôt le mec qui est là un petit peu rêveur, genre oh, c'est rigolo, oh, il y a du lait dans mon café, c'est rigolo. Et en fait, le cerveau droit qui serait le côté très rationnel, gestion, machin, qui serait représenté plutôt par la meuf. Auquel cas, c'est plutôt.
Par rapport à un truc comme ça qui est finalement le jeu Homo Machina, c'est avant tout un environnement graphique avec et cette idée de transposer le mécanisme du corps humain par les systèmes d'usines, de valves, de boutons, de trucs comme ça. Je trouve que on aurait pu faire un environnement scénaristique entre guillemets, parce qu'il y en a un poil peut-être plus original, aller bon, chercher assiste. Un peu plus loin,
pas
forcément progressiste. Je m'en fous un peu, mais dans ce cadre-là.
En plus, je fais attention de mettre vraiment quasiment autant de meufs que de mecs, y compris
alors
poste de scientifique.
Non, mais je sais pas. Après, c'est même pas une critique parce que c'est pas.
Non, peut-être un peu la, je sais pas, la folie d'un, je sais pas moi d'un, comment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, peut-être dans l'imaginaire, dans Michel Gondry par exemple aurait pu.
Ouais. En fait, je pense qu'il faut pas trop demander à ce jeu-là en termes scénaristiques ou de message. Je pense que le message, c'est genre.
Franchement, c'est même pas une question. En fait, c'est pour ça que je suis mal exprimé.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, je pense que il y a une volonté à ce jeu-là. C'est waouh, quand même, ce boulot de ce médecin dans les années du siècle, c'était pas fun. Enfin... Ce serait fou de le mettre, de lui donner vie, quoi. Et je pense que la mission est plutôt réussie. Il y a des problèmes de gameplay qui méritent d'être corrigés ou qui méritent d'être un petit peu tweakés. Et puis une fois qu'on aura ça,
sur portable, sur mobile,
iOS, Android,
ça mériterait d'être sur Switch, je parie. Mais
ouais, ce que je pense. Ouais,
parce qu'en plus avec un grand écran, le problème c'est que les mécanismes sont tout petits avec son écran, on met gros pouce et on voit pas ce qui se passe. Sur Switch on n'aurait pas ce problème par exemple.
Il fait partie de ces jeux que j'aime beaucoup qui sont aussi prévus sur un écran vertical pour des c'est pensé au support,
ça
c'est une vraie qualité quand même, c'est une vraie qualité, c'est un gameplay prévu pour iOS, Android et voilà. Homo Machina, je crois que c'est entre 4 et 5 euros de mémoire, ou un peu moins de 4, je ne sais plus, mais c'est dans ces eaux-là de prix. Et enfin, il faut y arriver, ça a été peut-être un peu long, mais on est arrivé au jeu de la semaine de Patrick. Ça s'appelle Raging Justice. Alors, Patrick, il faut qu'on parle.
Parlons-en.
Non, mais parce que moi j'aime bien quand on fait le programme de. Alors, je joue pas avec intensité et avec dans la longueur à tous les jeux dont on parle, mais j'aime bien comme ça jeter un œil, manipuler un petit peu comme ça pour pouvoir ne serait-ce que faire des relances sur.
Vous sentez quand même, hein, parce que moi j'ai entendu là déjà dans le trailer, ça sentait, mais ça sent la bagarre. Mais ça sent la bagarre entre Arwan et Patrick.
Mais pas
chaud,
du tout,
chaud,
ça sent
chaud,
pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Et où la barre de fer.
Mais quand même, après quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ce Raging Justice.
Ah, tu y as goûté quand même, dizaines de minutes.
Ah bah
quand même,
j'ai fait trois bosses.
Une petite
quatre,
heure,
quatre,
allez, une petite
quatre,
heure, deux heures.
Je sais pas, peut-être pas jusqu'à deux heures. Je me suis dit, mais pourquoi?
Pourquoi?
Voilà, c'est ça ma question, c'est pourquoi
Parce que ça tient en trois mots, c'est Beat Them All. Le Beat Them All, il revient en force. Je vous avais parlé de Streets of Rage il y a quelques temps. Mais justement, le Beat Them All, il est protéiforme par définition. C'est un genre qui, malgré son côté très basique, hein, 3-4 gus dans une rue qui vont tabasser des méchants, c'est un genre qui revient. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'était quand même une catégorie de jeu très ancrée dans une décennie, les années 90, sur quelques années. Et qui était vite tombé en désuétude, qui a disparu, qui a essayé un peu de rebondir avec la 3D, on se rappelle les Fighting Force, des choses comme ça, ça n'a jamais vraiment pris. Il y a eu une quasi-disparition, et là ça revient en force avec des jeux indés comme ça, Streets of Rage, celui-ci, et puis il y en a d'autres. Je pense qu'il y a une vraie envie de toute une génération de joueurs de retrouver cette sensation du Beat'em All de l'époque, je voulais chercher le titre qu'on avait adoré, on en avait parlé ici il y a quelques temps.
Mais finalement qui est assez proche dans l'idée de Streets of Rage, par exemple, c'est une même approche entre Mother Russia
avec une progression des jeux qui ont vu passer une vingtaine d'années, qui ont réfléchi aussi à ce qu'était le Beat'em All et qui ont justement aspiré d'autres influences pour justement faire évoluer la formule.
Ce que ne fait pas Raging Justice.
Alors Raging Justice, moi j'ai envie de dire, le contrat est clair, limpide dès le titre. Tu sais ce que tu vas avoir. Ouais, tu vas avoir une justice enragée qui va tabasser du méchant dans la rue. En fait, le pitch il tient en trois mots avec une scène cinématique fabuleuse. On va suivre. C'est un jeu qu'on
permettez-moi,
peut pratiquer.
Permettez-moi de mettre un peu de relativiser l'aspect fabuleux de la scène cinématique.
Mais est-ce qu'on peut évacuer l'éléphant dans la pièce? On peut parler du graphisme juste deux secondes.
Ah bah si tu veux, parce que c'est très clivant. Voilà. C'est le côté très clivant de
voilà. Les graphismes, c'est un peu à l'origine de mon pourquoi.
Je parlais du côté très protéiforme du genre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait Streets of Rage il y a quelques temps qui était très minimaliste, très 8 bits, dans une sorte de réévaluation de l'arcade adaptée sur un Amstrad ou autre. Là, on est vraiment sur quelque chose de clinquant. Moi, j'ai eu l'impression, parce que je jouais encore pas mal à Streets of Rage, et j'ai vu ça passer, j'ai sauté dessus. Ouais. J'ai eu l'impression d'arriver sur Amiga avec des visuels qui pétaient dans tous les sens, qui peuvent un peu agresser la rétine. Hein. Je vous dis pas que mes yeux sont dans un état fabuleux ce matin, mais le jeu envoie du lourd en termes de visuel. Il est très coloré, il y a des sprites énormes à l'écran.
Et si tu veux, moi, ce jeu, il a des Ray-Ban miroirs et une banane Vuitton.
Mais c'est ça qui est bon.
Tu vois le truc.
C'est ça qu'on attend, Erwan. Aussi
entre nous tu me le vends comme ça me donne envie
bien sûr que ça donne envie le monsieur il a joué à Radical High
qui correspond si bien à cette définition je trouve
il est
quand même super moche
non il est pas moche non, il est clivant parce qu'il a des sprites très colorés
être clivant c'est une manière diplomatique de dire que c'est moche
j'ai lancé ce qui m'a plu c'est la taille hallucinante des sprites c'est énorme il fait un bruit pas possible ce jeu il y a de la musique techno de l'époque il y a des digits vocales dans tous les sens
donc on est sur du pré-rendered
il m'a fait penser à Clef Fighter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu
pas
de baston des personnages
tout,
en pâte à modeler qui avait été digitalisé. En fait, il reprend la techno des Donkey Kong Country. Et comme par hasard, il a été développé par Making Game. C'est un petit studio indé anglais qui a été composé par des anciens de Rare. Donc, ça peut aussi expliquer qu'ils aient gardé cette marque de fabrique de digitaliser comme ça des personnages. Ça, quand on joue... On se demande parfois, est-ce que ce sont des acteurs digitalisés qui bougent? Est-ce que ce sont plutôt des pâtes à modeler? Enfin, il y a un rendu assez bizarre. Alors, le bon côté, c'est que quand on passe à côté, on peut pas le louper. C'est-à-dire que visuellement, il tape vraiment.
Je dirais inoubliable.
Ça pique. Le
côté un peu... Moi, j'adore le visuel. Je trouve qu'il a un parti pris mais complètement à l'opposé d'un Streets of Rage. Mais qui justement...
En fait, c'est très bizarre parce que en fait, tu as raison sur mon analogie. Elle faisait rire. Et c'est peut-être son problème. C'est là où l'analogie est fausse. C'est que... Je perçois qu'il y a du second degré. Je perçois, il doit y avoir du second degré quelque part. On ne peut pas faire cette chose-là au premier degré.
Mais
à un moment, j'arrive pas suffisamment à identifier ce recul nécessaire par rapport à ce que je vois.
Tu prends trop la tête, Erwan. Je peux pas
l'accepter tel quel.
Moi, je suis plutôt pour parce que encore une fois, ils mettent des grands persos à l'écran. Le vrai problème, c'est qu'il est un peu fouillis visuellement et que des fois t'as du mal à retrouver
parlons du gameplay. Hein,
t'as du mal à retrouver tes persos dans le décor. C'est vrai
ramasser
parfois,
un truc par terre. Ramasser un truc par terre quand, quand une la batte de baseball, le poignard, le truc hyper classique.
Les armes.
Cela dit, c'est pas un genre évident pour ramasser les trucs par terre. Ça a toujours été un problème.
Alors après. Il questionne le genre quand même. Hein. En 2018, on sent qu'il y a les joueurs.
Patrick, t'as jamais été aussi long de bois, j'en
peux plus. Non, mais il tente des choses. Non. Soyons sérieux.
Oui.
Quand on aime le Beat'em All, justement, on fait attention à quelques petites choses.
Oui.
Alors là, il remplit plein de cases. On a tous les clichés du genre. On a l'attaque de mec en moto à un moment donné. Ça, on l'attend, on l'a. On a le pilotage de véhicules complètement dingue. À un moment, je me suis retrouvé à piloter un tracteur pour écraser des persos en vrac. Enfin, c'est. Et encore une fois, ça a une dimension à l'écran avec ces personnages gigantesques, c'est fou. On a vraiment l'impression d'être sur une bande d'arcade de l'époque. Des choses qui font plaisir, c'est qu'on peut finir les ennemis au sol. Ça, c'est important. C'est vrai que ça peut paraître violent, j'en parle comme ça, mais
ouais,
on
mais
est
ça,
dans un jeu vidéo.
C'est vraiment les codes classiques.
Ouais, mais ils sont
ça.
Pas toujours là. Et là, il y est. On peut vraiment jouer là-dessus. On a les bâtons de dynamite qu'on peut rebalancer à l'écran, qu'on peut rebalancer à la figure des ennemis qui nous les lancent. Tout ça, ça apporte aussi une dynamique.
Ouais. Ouais, est-ce que là, on n'est pas dans le cas de la Madeleine de Proust de ouf,
mais,
quoi,
mais le jeu, il assume, mais il vend pas autre chose.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il est vraiment là pour faire plaisir aux anciens.
C'est ça. C'est pour ça que ça n'a pas marché chez moi.
Ah ben non, mais justement.
C'est que si t'as pas les souvenirs initiaux, ça marche pas du coup.
C'est peut-être le souci de ce jeu-là.
Je suis pas d'accord. Il tente des petites choses.
Je vous garantis, ça marche pas.
Alors on rappelle, donc on joue un groupe de policiers qui va essayer de rétablir l'ordre dans des quartiers un peu difficiles.
Dans New Atlanta ou un truc du genre, non.
Je sais plus où ça se passe. Alors on a trois personnages très clichés, une espèce de Rick Hunter, une espèce de grand costaud qui tape bien. On a l'ado qui saute dans tous les sens. Et puis on a la militaire badass qui a toutes les prises, etc. Ce qui est intéressant, en fait, quand on lance chaque niveau, on a des objectifs. Ne pas dépasser si possible. En fait, on va avoir des bonus si on remplit certains objectifs. Aller le plus vite possible. Dépasser tel score.
Ouais.
Plus intéressant, arrêter tel ou tel type. Parce qu'il y a
les gens, leur mettre les menottes.
Et en fait, et c'est là où tu retrouves un peu les codes. C'est quand tu tapes sur des ennemis, tu as leur nom qui s'inscrit en haut
bien
à droite.
Avec la barre de vie.
Ouais. Exactement. Donc là, il faut avoir la jugeote de dire, ah bah lui, il est dans le listing des mecs à arrêter, donc je vais essayer de l'arrêter. Parce qu'on peut arrêter les gens.
Oui, je sais, mais tout à l'heure, tu disais que t'avais déjà du mal à trouver ton propre personnage. Alors, trouver un color swap au milieu d'une foule de pixels, comment tu fais?
Ça fait partie des défis. Alors, ça, tu t'y colles une fois que tu maîtrises bien tes coups, etc. Là où ça peine un peu, c'est qu'en fait, on a un peu de mal à arrêter les gens. C'est vrai qu'on part vite dans un baston assez costaud.
Si tu mets un coup de pied, t'as trois persos qui volent en général.
C'est un peu ça. Et en fait, t'as beaucoup de mal à faire de la prise pour arrêter, donc passer les menottes. Et la même, je crois, que pour achever partant, que pour attraper. Ou... Donc c'est pas toujours très clair.
T'es pas policière.
Des fois, tu repères un type.
Je voulais l'arrêter, puis je l'ai tué.
Et du coup, tu vois, le côté bad cop, on te dit, ah, t'es un mauvais flic, ça marche pas bien. Bon. Ça, c'était une bonne idée. Je trouve que ça, ils n'arrivent pas à bien transformer. Mais en tout cas, il y a toute une liste d'objectifs. Donc, tu peux rejouer, refaire les niveaux en disant, essayant d'avancer.
De réussir les objectifs. Ça débloque quoi, du coup?
Bah, tu débloques je sais plus ce que tu débloques. C'est une bonne question. Je ne sais pas penser là-dessus. Je sais plus. Des points. Tu dois pouvoir.
Des points. Waouh.
En tout cas, t'as une rejouabilité en fait à ce niveau-là.
Ouais.
Encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté complètement défoulant, quoi. Et encore une fois, le jeu ne promet pas autre chose.
Mais tellement pas. Il est frustrant. C'est énervant.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve
Moi, franchement, j'ai autant sur Mother Russia Bleeds, il y avait quelque chose de précis, quelque chose qui engageait, quelque chose qui donnait envie d'avancer, de comprendre un peu les mécaniques, d'acquérir un rythme aussi, parce que les jeux modernes et tout ça, y a toute cette question de rythme qu'on pouvait avoir.
Tu interagis avec les éléments du décor, tu peux attraper
comment
les trucs, jeter la figure
tout à l'heure, c'est de latence. Quand tu parlais de Donkey Kong,
il y a pas d'inertie.
Générale, ce jeu inerte.
Non, c'est parce que il a une mise en scène assez particulière. Moi, je trouve, au contraire, moi je trouve qu'il il est assez. Je trouve qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance visuelle, il y a un cachet, il tente des choses. Alors, tout n'est pas réussi. Je vous disais, le coup d'arrêter c'était une bonne idée, qu'il n'arrive pas à bien transformer. Mais je trouve qu'il y a une dynamique. Je trouve qu'il a une force. Il tente plein de choses et il embarque, quoi. Quand on aime ce genre, il faut aimer le genre.
Il faut aimer le genre.
Clairement, il s'adresse vraiment.
Il est pas beau.
Il y a un petit mode horde, de survie où tu es dans des. Mais ça dépend, ça. C'est très, très subjectif, Erwan. Hein. Moi, je trouve qu'il.
Bon, regarde, je vais le troller aussi. Non, mais je dirais qu'il est aussi beau que Slay the Spire, quoi, à peu près.
Non, je trouve qu'il est très coloré, il pique un peu les yeux, mais je trouve qu'au moins il tente quelque chose, il va à fond dans son concept, et en tout cas il a une pêche. Et ça, je trouve que aussi bien visuel que sonore, qu'au niveau de l'ambiance, et que bah, les niveaux sont super pêchus, il y a une vraie difficulté qui n'est pas toujours bien dosée. Je trouve que des fois, c'est un peu, il y a des hausses de difficulté sur des boss, etc. Mais il y a du répondant.
En fait,
et quand on aime le genre, je trouve que...
Je t'écoute en parler, en fait, j'ai vraiment le sentiment que tu me décris un jeu vraiment à l'ancienne. Oui. Mais à la fin de nos phrases, on dirait oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Sauf que là, on est en 2018, et du coup, c'est un peu problématique de sortir un jeu comme ça.
Pour moi, le vrai truc à réprimander, moi, qui m'a vraiment choqué au bout de quelques heures de jeu, c'est le manque de diversité des ennemis. En fait, t'as toujours les mêmes trois Gus qui reviennent. Et ça, non, c'est vrai que c'est un truc qu'on était habitué à voir sur Mega Drive, qui passe un peu moins bien aujourd'hui.
Non, mais il y a un moment voilà, où il y a aussi, c'est bien les Madeleines. J'ai rien contre les Madeleines. Le problème aussi, c'est qu'on. Enfin, le truc, c'est qu'on voit aujourd'hui des jeux qui arrivent à moderniser.
Ah, mais je suis d'accord. Et je prends mon pied sur Street of Red, je vous en ai parlé. Mais je prends aussi mon pied sur quelque chose de très régressif comme celui-ci.
C'est ça.
C'est peut-être un plaisir coupable, mais que j'assume complètement. Et je, voilà, on en a parlé. En tout cas, moi je le conseille quand vous êtes fan de Beat'em All à l'ancienne.
En tout cas, je serais curieux d'avoir l'avis des auditeurs sur le forum sur les graphismes. Je suis curieux.
Ah ben, c'est clivant. Regardez. C'est sûr que on aime ou on n'aime pas.
Hein. Vous pouvez regarder.
Il n'y a pas de demi-mesure sur ce titre.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une mesure dans un sens d'ailleurs, mais bref, si tu nous prouves que si.
Il y a un vrai parti.
Oui, c'est ça.
Mais ce côté digit un peu bizarre, moi, qui m'a.
Je ne peux pas.
Mais voilà, si, mais moi, ça me fascine. Moi, je trouve ça fascinant.
Regime Justice, c'est sur quoi? C'est sur PC.
Alors,
console.
Il était sorti sur PC il y a un petit moment, et puis là, il a débarqué sur Switch, sur PS4, je crois, Xbox One, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, j'y joue sur Switch. Sympa en plus sur l'écran. Là.
En plus, on peut jouer en coop.
Bref, voilà. C'est fini pour les jeux vidéo pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Je suis allé voir L'île aux chiens, tout simplement. Wes Anderson, hein, qu'on connaît pour plein de films. Hein. The Grand Budapest Hotel, c'était celui qu'il avait sorti avant. Il avait aussi fait un autre film en stop motion, puisque L'île aux chiens est en stop motion, c'est de l'animation. Il avait fait sortir Fantastic Mr. Fox en 2010, Moonrise Kingdom aussi. Donc là, ça raconte l'histoire... j'ai oublié les noms. Bon, grosso modo, c'est à Megazaki, c'est une ville imaginaire du Japon. On envoie les chiens sur une île parce qu'il y a une grippe des chiens, grosso modo. Et on les envoie en quarantaine sur une île. Sauf que le chien du neveu du maire qui a justement envoyé les chiens en quarantaine a été envoyé, sauf qu'il adore son chien, donc il va le chercher. Et donc, il y a toute une histoire de la résistance des gens qui aiment les chiens et qui va se mettre en place pour sauver les chiens et tout ça. Et c'est vraiment sympa parce que c'est Wes Anderson, donc c'est toujours des plans cadrés au cordeau.
Est-ce que les chiens sont crédibles? Quand on aime bien les chiens, est-ce qu'on reconnaît est-ce qu'ils sont humanisés? Est-ce qu'ils sont... j'ai pas vu.
Dans le film, une des caractéristiques du film, c'est que ils parlent tous dans leur langue maternelle, sauf les chiens qui parlent en anglais. Donc tout le monde parle en japonais. Et il y a une étudiante aussi. Les traducteurs parlent en anglais aussi, et il y a une étudiante en échange qui parle en anglais. Sinon, les chiens parlent en anglais. D'ailleurs, les voix, hein, c'est des habitués de Wes Anderson. C'est Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum. Et Bryan Cranston, c'est Monsieur Breaking Bad, pour ceux qui ne voient pas trop de qui je parle. Il y a un parti pris, et rien n'est traduit. Enfin, en fait, c'est forcément traduit dans la diégèse du film. Donc, c'est-à-dire que soit il y a un appareil qui traduit automatiquement, soit il y a un interprète, soit la personne parle anglais de base. Et sinon, il n'y a que les waf des chiens qui sont traduits en anglais.
D'accord.
Et donc, c'est un parti pris qui est assez intéressant, moi, je trouve. Mais tout est fait pour qu'on comprenne tout, il n'y a pas de souci. Et apparemment, il y a aussi des articles de japonais qui ont vu le film, une journaliste japonaise du New Yorker qui dit il y a plein de blagues cachées pour les japonais que seuls les japonais peuvent comprendre parce que c'est de la culture japonaise que seuls les japonais peuvent comprendre vraiment, et c'est assez intéressant. Musique par Alexandre Desplat, hein, qui a déjà fait The Grand Budapest Hotel, je crois. Et donc, c'est beaucoup de taiko, beaucoup de musique japonaise, d'inspiration japonaise au minimum. C'est très bien, mais c'est à mon avis pas le meilleur Wes Anderson. Je pense qu'il est moins mémorable que Fantastic Mr. Fox ou Budapest Hotel, à mon sens, mais ça reste ultra sympa. C'est peut-être pas autant pour les enfants que pour les adultes, mais on peut emmener les enfants. Il y a des chiens, ça va les faire rigoler. Et puis voilà, c'est une jolie fable, on va dire, une jolie fable moderne.
Patrick.
Alors moi, j'ai pu voir la série Cobra Kai. Mais quel, c'est génial.
C'est quoi?
Alors, Karate Kid, vous connaissez Karate Kid, le film de 84, mythique, qui était devenu une saga, qu'on a un peu perdu, parce qu'il y a eu 3 épisodes canoniques, et puis des spin-offs un peu bizarres, et puis un remake fadasse il y a 7-8 ans maintenant, qui était pas bon, c'est Karate Kid, c'est mort, c'est fini. Cobra Kai, ça reprend 35 ans après les événements du Karate Kid original, et on retrouve Daniel, donc le héros de Karate Kid, et Johnny Lawrence, le grand méchant, le grand méchant du film original, qui était un peu devenu un méchant culte, hein, depuis qu'on n'avait pas revu depuis le pré-générique de Karate Kid 2. Et donc c'est une série de 10 épisodes qui donc se passe aujourd'hui et qui suit notamment Johnny Lawrence, qui se met en tête de relancer le Cobra Kai, le fameux dojo qu'il avait voilà, qu'il avait un peu transformé en machine à tuer dans le film original. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est une série pour les quarantenaires un peu pleurnicheurs,
nostalgiques.
Mais en fait, oui, c'est ce qu'on pourrait croire dans un premier temps, mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est bien plus malin que ça. Moi, j'ai vraiment été surpris par le côté... je craignais un côté, voilà, un peu profiteur d'une licence, d'un revival années 80. C'est bien plus fin que ça, en fait. Parce qu'on évite complètement le côté manichéen qu'on pouvait imaginer. Le tour de... Je vais pas spoiler, mais pour moi, le vrai tour de force de cette série, c'est de vraiment de mettre en lumière le personnage de Lawrence, qui est devenu... En fait, tout est inversé. C'est-à-dire que lui, qui était le bad guy charismatique du film original, c'est devenu l'outsider complètement, le loser qui essaie de remonter son dojo et qui rame complètement. Daniel est devenu un peu un nouveau riche, pas forcément toujours sympathique. Donc on se retrouve avec une réalité assez différente de ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui. Ça inverse un petit peu tout ce qu'on pouvait imaginer sur l'avenir de ces personnages. Et ça pose des vraies questions sur qu'est-ce qu'on devient après les idéaux de jeunesse qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'on devient 35 ans après, pour eux, un tournoi qui a mal fini pour le Cobra Kai. C'est bien plus fin que ça en a l'air. Ça inverse complètement tout ce qu'on pouvait imaginer. Encore une fois, c'est une très très bonne surprise.
Ça où
ouais. Alors c'est un des premiers contenus sur YouTube Red.
D'accord.
Les contenus de YouTube. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Moi, je recommande.
Okay.
Je craignais le pire et en fait non, c'est vraiment très très bien.
Moi, je vais juste parler rapidement d'une série dont j'ai vu la saison 1. Ça s'appelle Ozark. C'est dispo sur Netflix. Hein. Bah oui, on en parle aussi de temps en temps. Mais en fait, alors, c'est pas mal. C'est un produit de substitution pour les gens qui ont du mal à se remettre de la fin de Breaking Bad.
Ah.
On est vraiment sur la méthadone de Breaking Bad, en fait. C'est-à-dire que Breaking Bad est assez inégalable. Et puis là, bah, c'est une histoire voilà, d'un comptable qui blanchit l'argent des cartel de la drogue et qui se retrouve à devoir déménager et à devoir blanchir une somme absolument astronomique dans un temps record dans un endroit qu'il ne connaît pas tout en préservant la sécurité de sa famille qui apprend certains membres apprennent en temps réel la teneur de ses activités.
D'où l'aspect Breaking Badesque.
Et voilà, il y a ce mélange entre la vie de tous les jours et le contact lointain mais en même temps si proche avec des gens très très dangereux qui crée ce parallèle. L'acteur principal est très bon, je me rappelle évidemment pas de son prénom ni de son nom, mais voilà, c'est pas ça, on n'atteint pas les sommets de Breaking Bad, mais c'est quelque chose d'assez agréable. Voilà, ça s'appelle Ozark et merci à tous les deux. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.